Alléluia. Je vous invite à ouvrir l'Écriture sainte dans la première épître de l'apôtre Paul aux Corinthiens. 1 Corinthiens au chapitre 11, nous allons retirer du passage que nous lisons habituellement pour la Sainte Cène, juste le verset 28, pour l'instant. 1 Corinthiens 11, verset 28, et là vous avez quelque chose qui est indiqué, et qui va être le thème de notre prédication d'aujourd'hui, c'est la question de la mise à l'épreuve. Il est marqué là, « Que chacun donc s'éprouve soi-même, et qu'ainsi il mange du pain et boive de la coupe. » Que chacun donc s'éprouve soi-même, et qu'ainsi il mange du pain et boive de la coupe. Voilà. Alors bon, c'est vrai que... Par Dieu, on n'a pas si longtemps du fait que Dieu nous met à l'épreuve dans différents buts, diverses façons. Mais sachons là aussi que Dieu nous demande et même nous ordonne de nous mettre à l'épreuve nous-mêmes et de mettre à l'épreuve un certain nombre de choses. Il y a quelques années, je discutais avec quelqu'un qui travaillait dans une fabrique de tuiles à Pargny-sur-Sceau et m'expliquait qu'il fallait certaines sortes de sable, pas n'importe lequel, pratiquer certains mélanges et toutes sortes de conditions pour fabriquer de bonnes tuiles. Ils disaient que pendant un certain temps, ils avaient utilisé du sable qui venait de Moselle et que les tuiles étaient moins solides pendant cette période-là. Et qu'ils avaient aussi une machine spéciale pour éprouver la solidité des tuiles et qu'ainsi une gilardonie d'aujourd'hui résiste à une pression au centre de la tuile de 240 kg et une H14 à une pression de 220 kg. Voilà, si je me souviens bien. Avec les qualités de tuiles meilleures qu'ils ont maintenant. Et il m'expliquait aussi qu'ils avaient réussi à obtenir un label de qualité allemand qui était particulièrement prisé et qui n'était pas facile à obtenir, mais que cet organisme de certification allemand n'avait pas donné tout de suite. Ils avaient régulièrement surveillé la production et la qualité pendant 2 ans, et c'est seulement quand tout leur a donné satisfaction pendant cette période qu'ils ont accordé ce label tant convoité. Tout ceci pour dire quoi ? Tout ceci pour nous parler de la mise à l'épreuve en toute chose. Les tuiles sont mises à l'épreuve par une machine, les fabricants de tuiles sont mis à l'épreuve par un organisme de certification allemand, et la mise à l'épreuve, c'est quelque chose qui fait partie de la vie de tous les jours, et on pourrait certainement en donner quantité d'autres exemples. Et ainsi en est-il dans le domaine de la foi et dans le domaine des choses de Dieu aussi. Donc, nous pourrons voir ensemble aujourd'hui ce que Dieu nous ordonne de mettre à l'épreuve. Déjà, ça commence par nous-mêmes. Nous devons nous éprouver nous-mêmes. C'est la première chose. Ensuite, on pourra voir ce que ceux qui veulent servir le Seigneur doivent aussi être éprouvés. Et puis, il nous a expliqué que l'amour et le zèle en particulier doivent être éprouvés. Et il nous a dit encore que les esprits doivent être éprouvés. Enfin, en cinquième, Dieu ne se met pas en dehors de la chose puisqu'il nous invite... Lui-même nous invite à l'éprouver lui-même. Voilà. Donc, en premier, nous devons nous éprouver nous-mêmes. Paul le dit 2 fois aux Corinthiens, dans notre passage de départ, ainsi que dans un autre texte, en 2 Corinthiens 13, au verset 5, qu'on pourra voir un peu après. Et il ne s'agit pas là simplement d'une proposition qui nous est faite, qu'on pourrait négliger éventuellement, mais il s'agit d'une nécessité pressante et universelle pour tous les croyants. Nous devons nous éprouver nous-mêmes. Il n'en est pas un qui puisse s'en passer. De plus, il est écrit que nous devons le faire régulièrement, puisque, pas moins en tout cas, à chaque fois qu'on prend la Sainte Cène, déjà, d'après notre texte qu'on connaît. Et puis, il nous a dit que ce n'est pas quelque chose qui est sans conséquence, parce que si nous nous sommes bien examinés, bien éprouvés, alors nous en recevons la coupe de la Sainte Cène est une coupe de bénédiction. Par contre, si nous avons négligé de le faire, eh bien nous risquons de prendre un jugement contre nous-mêmes si nous ne sommes pas dans une bonne disposition. Et puis, un peu plus loin, au verset 31, il est question de se juger soi-même. Voilà, verset 31. « Si nous nous jugions nous-mêmes, nous ne serions pas jugés. » Donc, ça va dans le même sens. Et il est expliqué que ceux qui se jugent eux-mêmes de la bonne manière ne sont pas jugés par Dieu, et il pourra donc les bénir sans obstacle. Voilà. Le besoin que nous jugions, que nous éprouvions nous-mêmes, eh bien, ça concerne différents domaines qui sont à passer en revue. Voilà. Éprouvons-nous en ce qui concerne la séparation du péché dans notre vie. Éprouvons-nous en ce qui concerne la certitude du pardon de nos péchés. Et puis faisons-le en ce qui concerne la foi véritable en toute la parole de Dieu. Et puis faisons-le également en ce qui concerne l'assurance du salut dans notre cœur. Est-ce que nous avons cette assurance? Est-ce que nous la gardons? Et puis en ce qui concerne notre service pour Dieu, là aussi éprouvons-nous l'assurance d'être dans le chemin de Dieu, l'assurance que nous pratiquons nos devoirs envers notre entourage, l'assurance que nous en sommes en bonne relation avec nos frères et sœurs, dans la foi en particulier, et puis l'assurance que nous sommes en communion avec le Seigneur, l'assurance de notre amour pour lui. Éprouvons-nous également de ce point de vue-là. Et éprouvons-nous en ce qui concerne l'esprit d'évangélisation et en ce qui concerne l'amour pour ceux qui ne connaissent pas encore le Seigneur. Voilà. Et dans 2 Corinthiens 13, un peu plus loin donc, maintenant, que nous lisons maintenant, eh bien, nous avons également ce deuxième passage dont je vous ai fait mention il y a un instant. 2 Corinthiens 13, voilà, j'y arrive. Et nous lisons là, dans 2 Corinthiens 13, on va lire à partir du verset 2. « Lorsque j'étais présent pour la seconde fois, j'ai déjà dit, et aujourd'hui que je suis absent, je dis encore d'avance, à ceux qui ont péché précédemment et à tous les autres, que si je retourne chez vous, je n'userai d'aucun ménagement, puisque vous cherchez une preuve que Christ parle en moi, lui qui n'est pas faible à votre égard, mais qui est puissant parmi vous. Car il a été crucifié à cause de sa faiblesse, mais il vit par la puissance de Dieu. Nous aussi, nous sommes faibles en lui, mais nous vivons avec lui par la puissance de Dieu pour agir envers vous. Examinez-vous vous-même pour savoir si vous êtes dans la foi. Éprouvez-vous vous-même. Ne reconnaissez-vous pas que Jésus-Christ est en vous, à moins peut-être que vous ne soyez réprouvés. Mais j'espère que vous reconnaîtrez que nous ne sommes pas réprouvés. Cependant, nous prions Dieu que vous ne fassiez rien de mal, non pour paraître nous-mêmes approuvés, mais afin que vous pratiquiez ce qui est bien et que nous soyons comme réprouvés, car nous n'avons pas de puissance contre la vérité, nous n'en avons que pour la vérité. Amen. » Voilà, c'est un texte qui est un petit peu sévère. Bon, c'était une nécessité salutaire pour les Corinthiens que l'apôtre Paul s'adresse à eux ainsi. Mais quand même, il explique, voilà, vous devez vous éprouver vous-même. Et ce n'est pas en mettant en cause les serviteurs de Dieu, donc lui en particulier, que vous allez le faire. Hein, c'est ce qu'il dit dans le verset 3. Et puis, c'est en prenant, comme si vous voulez prendre quelqu'un comme référence, mais prenez comme référence le Seigneur. Hein, c'est ce qu'il dit dans les versets 3 et 4. Après, en vous comparant à lui, et puis en considérant aussi la présence du Seigneur, la communion qu'on a avec lui, en ce qui concerne aussi la pratique du bien. Donc, ça aussi, c'est quelque chose de fondamental pour ne pas tomber dans l'illusion, pour ne pas se tromper soi-même. Vous savez, dans les pièces de théâtre de la Grèce antique, bien, vous aviez une personne qui était derrière le rideau et qui récitait le texte, tandis que l'acteur sur la scène interprétait le rôle. Et on pouvait considérer quelque part l'orateur derrière le rideau comme quelqu'un qui ne pratiquait pas ce qu'il disait, ne pratiquait pas ce qu'il prêchait. Et tout ceci pour nous dire que le chrétien qui a vraiment une influence favorable sur le monde, qui l'observe, qui va favoriser la cause de Christ, c'est quelqu'un dont les actions s'accordent avec les paroles. Hein ? Ce que nous voyons par exemple dans l'épître de Jacques au chapitre 3, lorsqu'il parle de la sagesse d'en haut, il la décrit comme pure, pacifique, modérée, conciliante, pleine de miséricorde et de bons fruits, exempte de duplicité et d'hypocrisie. Jacques chapitre 3 verset 17. Et c'est vrai que notre rôle comme chrétien est tout à fait différent de celui des acteurs de la Grèce antique, parce que vous aviez des orateurs qui n'agissaient pas et des acteurs qui ne parlaient pas. Or, nous devons être des gens qui parlent et qui mettent la vérité en pratique avec le secours de Dieu. Amen. Amen. Donc voilà, ceci pour nous parler de cette nécessité de nous examiner, de nous éprouver chacun pour notre part, pour demeurer dans la foi et dans la vérité, suivant ce qui est dit en conclusion de notre lecture dans le verset 8. Et puis maintenant, pardon, notre point suivant nous rappelle que ceux qui veulent vraiment servir le Seigneur doivent être éprouvés aussi. C'est important. Raconte cette petite fable qui se racontait en Orient. C'est l'histoire d'un roi qui avait deux fils. Et l'un des deux seulement devait hériter du royaume, devait régner. Alors, désirant éprouver leur sagesse, afin de les départager, il les a fait venir tous les deux et leur a dit, en leur donnant à chacun une petite somme d'argent, « Voilà ce que vous avez à faire. » Avec cet argent, vous allez vous procurer de quoi remplir complètement la grande salle vide du château. Celui qui s'acquittera le mieux de cette tâche, c'est celui qui héritera de mon royaume. » Alors, le premier fils avait appris que ce qui était bon marché, et ce qui prenait de la place, c'était la paille. Hein. Donc, voilà, donc il a utilisé la somme dont il disposait pour acheter de la paille, mais la salle du château n'a été remplie qu'à moitié. Alors, le second fils, lui, il a acheté un vase d'argile, il a acheté de l'huile, il a acheté une mèche, et avec ça, il a fait une lampe qu'il a allumée, et voici que la grande salle du château a été remplie de lumière jusque dans ses derniers recoins. Et la volonté du Seigneur, la volonté de notre Père Céleste, c'est de nous faire régner aussi. Hein. Mais pour ça, il nous éprouve. Et pour passer victorieusement ce test, il nous faut faire brûler, pour ce qui nous concerne, la lumière de la parole de Dieu dans nos vies, autour de nous, par la prière et par le Saint-Esprit. Hein, c'est là notre lampe, c'est là l'huile aussi du Saint-Esprit par laquelle le Seigneur veut également nous fortifier. Amen. Hein. Et là, notre texte de référence pour cette question d'éprouver ceux qui veulent vraiment servir le Seigneur se trouve dans l'Épître aux Philippiens, au chapitre 2, et nous allons lire là, au verset 19. J'espère dans le Seigneur, Jésus, vous envoyer bientôt Timothée, afin d'être encouragé moi-même en apprenant ce qui vous concerne. Car je n'ai personne ici qui partage mes sentiments pour prendre sincèrement à cœur votre situation. Tous, en effet, cherchent leurs propres intérêts et non ceux de Jésus-Christ. Vous savez qu'il a été mis à l'épreuve en se consacrant au service de l'Évangile avec moi, comme un enfant avec son père. Et nous lisons donc spécialement ce verset 22 où l'apôtre Paul nous explique comment Timothée a été éprouvé. Il a été éprouvé déjà en se consacrant, il a été éprouvé en se consacrant au service de l'Évangile, avec ce que ça implique. Je retenais cette petite lecture de Max Lucado qui a écrit la chose suivante. « Le monde a besoin de serviteurs, de personnes comme Jésus qui vint non pour être servi, mais pour servir. » Il jeta son dévolu sur l'humble visage de Nazareth plutôt que sur la ville cosmopolite de Jérusalem. Il préféra l'échoppe poussiéreuse de son père adoptif, Joseph, plutôt que les colonnades de marbre d'un palais royal. Il choisit de vivre pendant 30 ans dans l'anonymat plutôt que de rechercher la popularité. Il préféra prier plutôt que dormir. Il s'entoura de disciples peu fiables, alors qu'il aurait pu s'adjuger le soutien d'une cohorte d'anges obéissants. Quant à moi, j'aurais sans nul doute choisi les anges, mais pas lui. Il préférait la compagnie des hommes. Quand ceux-ci tremblèrent de peur au milieu de la tempête, il s'empressa de la calmer. Quand ils furent à court d'argent pour payer leurs impôts, il leur en fournit. Il accepta d'interrompre l'un de ses sermons pour s'occuper d'une femme adultère, de modifier son emploi du temps pour guérir une femme malade et de faire une pause au cours d'un repas pour écouter une femme rongée de remords. Aucun de ses apôtres ne s'abaissa à lui laver les pieds, tandis que lui se mit à genoux pour laver les leurs. Bien qu'aucun des soldats qui le crucifièrent n'implora sa pitié, il la leur offrit. Bien que ses disciples s'éparpillèrent comme des lapins dans la campagne un certain jeudi après-midi, il s'empressa d'aller à leur recherche un certain dimanche de Pâques. Ressuscité, lui, le roi des rois, attendit 40 jours avant de remonter dans son ciel de gloire, les passant en compagnie de ses amis, continuant à les enseigner, à les encourager et à les servir. Amen. C'est l'apôtre Pierre qui nous dit « Revêtez-vous d'humilité ». Dans vos rapports les uns avec les autres, spécialement pour servir. Donc voilà, cette notion de service est évidemment centrale. Donc, et puis, que voyons-nous encore ? Pour en revenir à Timothée, il a été éprouvé en faisant ce service avec l'apôtre, même dans la situation critiquée, la situation compliquée dans laquelle il se trouvait, il est resté solidaire avec lui. Il est même marqué comme un enfant avec son père. Et ça nous parle de cette relation profonde, filiale, en même temps que cette soumission pleine de confiance. Et puis, l'apôtre nous rappelle un peu dans le verset 20 qu'il n'avait personne sur le lieu où il se trouvait qui partage ses sentiments. Donc, pour Timothée, eh bien, c'était le cas. Donc, c'était ce qu'il laissait également comprendre. Et puis, de la même façon, quand il dit qu'il parle de ceux qui ne cherchent que leurs propres intérêts avant ceux de Jésus-Christ, eh bien, il laisse comprendre que pour Timothée, il en est aussi différemment dans le verset 21. Et Timothée, c'est quelqu'un aussi qui s'est laissé envoyer ici ou là, ce qu'on voit au verset 19 ainsi qu'au verset 23, lorsque la cause du Seigneur l'exigeait. Donc, il s'est sacrifié pour cela. Dans toutes ces choses, il a fallu qu'il soit mis à l'épreuve tout un temps pour qu'il puisse être utile à la cause, à la gloire de Dieu, donc, et exercer pleinement ce service et ce ministère. Et je crois que c'est intéressant de rappeler cette question de relation entre Paul et Timothée, de cette formation par laquelle Timothée a eu à passer, par laquelle il est passé de bon cœur d'ailleurs, parce que nous voyons que Timothée, en tout cas, c'était celui dont l'apôtre Paul envisageait qu'il soit son fils spirituel et qu'il puisse être appelé à devenir son successeur. Et il y avait trois choses, et ça qui est intéressant à relever aussi, c'est qu'il y avait trois choses qui tenaient spécialement à cœur à l'apôtre Paul dans sa démarche de transmission qu'il envisageait et qu'il actionnait à l'égard de Timothée. Ces trois choses, c'était en premier l'œuvre en place, l'œuvre qu'il y avait, c'est-à-dire ces églises qui avaient été ouvertes par son ministère et ainsi que par d'autres ministères, ce réseau de serviteurs de Dieu, d'ouvriers pour Christ, avec les travaux, les projets de mission, d'avancement du royaume de Dieu, donc l'œuvre, c'était le premier, première chose qui lui tenait à cœur. La deuxième chose qui lui tenait à cœur, c'était le bon dépôt. Le bon dépôt qui lui avait été confié par Dieu et dont il parle beaucoup, et tout spécialement à Timothée, et tout spécialement dans ses dernières épîtres, dans la dernière épître à Timothée, il revient régulièrement là-dessus. Ce dépôt, donc, il comprend d'une part une bonne doctrine, et d'autre part toute une série de bonnes pratiques, et je dirais de principes de fonctionnement. Il résume ça lorsqu'il dit comment il faut se conduire dans la maison de Dieu, comment il faut se conduire dans l'église de Dieu. Voilà, c'est le bon dépôt. Et la troisième chose qui tenait à cœur, c'était la vision. La vision qui sous-tend, et qui motive tout cela, et qui donne la force, qui donne la conviction, qui donne l'assurance pour accomplir le ministère, pour réaliser par la puissance de Dieu ce travail si grand dont il est dit par ailleurs, qui est suffisant pour ces choses. Voilà. Et je crois que nous sommes toujours aujourd'hui devant ces mêmes trois grandes priorités à ne pas perdre de vue et qui sont plus pressantes et plus actuelles que jamais pour lorsque nous envisageons une succession dans une église, quand un serviteur de Dieu envisage une succession dans l'église dont il est le conducteur et un passage de témoin qui se passe le mieux possible. Vous avez l'œuvre en place, première chose qu'il ne faut jamais oublier, l'église en place avec ses membres, avec toutes les activités spirituelles, les projets qu'elle développe, le bon dépôt. Et je suis pleinement persuadé que nous avons eu le privilège de recevoir un excellent dépôt au niveau doctrinal, et puis au niveau aussi des fonctionnements pratiques, de certains de ces fonctionnements nous sont, je dirais, quelque part un petit peu particuliers. C'est Dieu qui a conduit les choses dans l'histoire de cette œuvre pour qu'il en soit ainsi, et c'est ça qui a permis le développement de cette œuvre, et plus le temps passe, et plus les épreuves se présentent, et plus je suis convaincu, pour ma part en tout cas, de l'excellence de ce dépôt et qu'il faut absolument le garder et absolument le transmettre dans son entièreté. Amen. Et puis vous avez la vision aussi. Et la vision aussi, et là nous parlons spécialement de la vision d'œuvre dans laquelle il faut entrer et dont il faut se pénétrer. Donc là, c'est plus que simplement participer à des réunions de l'Église, à ses activités, même pendant des années. Mais la vision, c'est ce qui va nous permettre d'aller de l'avant avec assurance, avec résolution, avec conviction, dans le sens de ce bon dépôt et des fondements de cette œuvre. Et c'est ça qui va nous permettre aussi de résister avec détermination aux adversaires de l'œuvre, à ceux qui ne sont pas consacrés, et puis à nous aider à aller de l'avant en surmontant les obstacles, en gardant les objectifs que le Seigneur met devant nos yeux spirituels. Amen. Alors, ce n'est pas forcément facile d'entrer dans une vision, vous savez. C'est aussi un combat pour y demeurer, pour la garder, et puis pour y évoluer, parce que Dieu est celui qui fait avancer les choses. Tu es celui qui fait grandir les choses. Et ça, c'est quelque chose qui se fait par l'étude et la méditation assidue de la parole de Dieu, par la prière persévérante, par le baptême et la puissance du Saint-Esprit, et puis par la communion avec ceux qui ont véritablement l'œuvre de Dieu à cœur, et spécialement les ministères. Et je crois qu'il faut bien retenir cela. Si vous voulez avoir pour notre Église un avenir, pour notre Église de Châlons, en particulier, eh bien, il faut prier pour que ces trois choses se transmettent dans de bonnes conditions. Et pas seulement une ou deux, mais les trois sont nécessaires. L'œuvre, le bon dépôt et la vision. Et pour que cette transmission puisse se faire, il a fallu bien sûr un transmetteur, qui dans ce cas était l'apôtre Paul. Il a fallu un récepteur, si on veut parler comme ça, c'est-à-dire Timothée dans ce cas. Il n'y a pas eu que lui d'ailleurs, hein. Il parlait de Tite aussi par ailleurs, ou par exemple d'autres, mais enfin Timothée est intéressant parce que c'est peut-être sur lui qu'on a le plus de détails instructifs. Et là aussi vous voyez une série de conditions, une série de 7 conditions pour que cette transmission puisse se faire dans de bonnes conditions, d'après tout ce qui nous est indiqué là. Déjà, la première chose, c'est la nécessité de l'acceptation des priorités spirituelles. Il faut bien qu'on soit d'accord là-dessus. C'est-à-dire que les activités spirituelles, personnelles dans l'Église, ont la priorité sur toutes les autres. Voilà. Il faut qu'on soit d'accord sur ce point si on veut que quelque chose puisse se faire. Et il faut organiser sa vie pour ça. Première chose. Deuxième chose, la nécessité, bon, ça va avec, hein, la nécessité d'une réelle consécration à Dieu, à son service et à son œuvre. Ça veut dire consécration de son temps, de ses forces, de ses moyens, de ses disponibilités, de ses loisirs et de ses relations. Servir Dieu, c'est quand même ça. Ensuite, la nécessité d'une réelle confiance, ça aussi. Hein. Bien sûr, nous le voyons dans ce cas, cette confiance mutuelle indispensable pour une bonne formation et une bonne transmission. Donc sinon, ce sera vraiment trop compliqué. Et puis la nécessité de la fidélité aussi. Nécessité de la fidélité sur laquelle cette confiance solide va pouvoir se construire. Dans le livre des Proverbes, il est marqué « Beaucoup d'hommes proclament leur bonté, mais un homme fidèle, qui le trouvera ?» Vous savez, il y a beaucoup de gens, ils sont persuadés de leur capacité et de leurs compétences, et parfois persuadés à juste titre, hein, c'est-à-dire pour remplir telle ou telle responsabilité dans l'œuvre de Dieu. Donc, ce n'est pas une question de capacité. Ce n'est pas au niveau des capacités qu'on a des problèmes. Dieu nous attend sur le terrain de la fidélité. Et là, d'un seul coup, il y a moins de monde. Hein. D'un seul coup, il y a moins de monde. Pourquoi ? Parce que la véritable fidélité, elle met en jeu deux incontournables. Le premier, c'est la fidélité sur la longueur, donc sur le temps. La fidélité, c'est une question de temps. Hein. C'est pas une fidélité, c'est pas sur 2 jours. Hein. Et puis le deuxième, c'est l'épreuve. Hein, donc, la fidélité, c'est au travers de l'épreuve. Elle se manifeste au travers des coups durs. Hein. Donc, ces deux choses sont là, et ce sont ceux qui ne se lasseront pas, qui ne s'useront pas, parce qu'ils savent se confier en Dieu, qui renouvellent les forces, qui renouvellent toutes choses, et bien ce sont ceux-là, donc, qui entreront dans ces critères qui divins. Le Seigneur insiste bien sur l'importance de cette fidélité. Et puis, aussi, une cinquième chose, la nécessité d'une conscience de l'importance du bon dépôt et de ce que c'est que ce bon dépôt. Hein, donc, et pas seulement en théorie, mais aussi en pratique. Et c'est pour ça que eh bien, le fait de travailler dans l'œuvre de Dieu de manière continue, dans laquelle se présentent toutes sortes de situations, dans laquelle se présentent toutes sortes de moments où justement, eh bien, il faut pouvoir mettre le bon dépôt en œuvre, hein, où il faut pouvoir véritablement adapter les choses suivant les trésors qui y sont contenus. Donc, c'est seulement là que cette œuvre va pouvoir se faire. Donc, et puis la nécessité, nous l'avons dit aussi, d'une vision commune. C'est Paul qui est le dépositaire de cette vision devant Dieu. Et donc, le Seigneur va continuer à lui communiquer, à le faire progresser. Et Timothée doit pénétrer et se pénétrer au fur et à mesure de cette vision. Donc, c'est quelque chose qui ne va pas se réaliser du jour au lendemain parce qu'il y faut de l'écoute, il y faut de la persévérance, il faut de l'humilité. Et puis enfin, une septième chose, c'est cette nécessité d'une bonne collaboration proche et suivie pour que justement tout cela puisse se faire dans de bonnes conditions. En particulier, vous avez la question de la redevabilité, c'est-à-dire le fait que Timothée rende compte à Paul, puisque c'est lui qui est mis à l'épreuve, c'est lui qui est en formation, et c'est aussi au cœur de cette bonne collaboration fructueuse et aux bonnes conséquences. Et voilà certainement des éléments précieux pour nourrir la prière de ceux qui ont à cœur parmi nous le bien-être de l'Église, le bien-être de l'œuvre, ceux qui ont à cœur l'avenir de l'Assemblée jusqu'au retour du Seigneur, ceux qui ont à cœur que les choses se transmettent par les bonnes personnes dans de bonnes conditions et pour la gloire de Dieu. Et certainement aucune de ces choses rappelées n'est de trop et nous n'avons pas besoin simplement de la plupart, mais nous avons besoin de l'ensemble. Et que Dieu bénisse tout spécialement ceux qui prennent cela à cœur sérieusement et fidèlement, chacun suivant le service et les responsabilités qui nous ont été confiées. Amen. Amen. Voilà, donc ça c'est pour le service. Et après, il nous est indiqué aussi que l'amour et le zèle doivent également être éprouvés. Ça aussi c'est très important. Vous avez probablement entendu parler du Mahatma Gandhi. As-tu parlé de Gandhi ? Gandhi, en Inde, hein, voilà, on pense beaucoup à Gandhi en Inde et de tout le combat de non-violence qu'il a pratiqué pour obtenir l'indépendance de l'Inde. Hein. Mais il faut quand même se souvenir que pendant un temps de sa vie, Gandhi avait envisagé de devenir chrétien. Lorsqu'il était en Afrique du Sud, il avait été très impressionné en lisant la Bible, tout spécialement par le sermon sur la montagne. Et un dimanche matin, il s'est dit « je vais aller à l'église ». Je suis allé à l'église, mais quand il a voulu entrer dans le bâtiment, il y a un huissier qui s'est présenté là, qui s'est avancé, que pour lui dire que cette église était exclusivement réservée aux Blancs, et puis que si vous allez à l'église pour les Noirs, il y en avait une au bout de la rue. Voilà. Et donc, il a décidé, moi, c'est terminé. Terrible, hein ? C'est terrible. Voilà. Donc, il a abandonné tout désir et toute idée de devenir chrétien. Il s'est dit, si c'est ça les chrétiens, c'est pas la peine. Prenez la perte qui a été faite ce jour-là. Hein, tout simplement pourquoi ? Un gâchis. Pourquoi ? Eh bien parce que justement, eh bien, il faut quand même la réalité de l'amour. Hein. La réalité de l'amour et du zèle pour l'accueil des autres, hein, pour l'intérêt, l'affection pratique, le service bienveillant que nous devons leur apporter en tant que vrais croyants. Amen. Et là, nous allons lire maintenant ensemble dans 2 Corinthiens au chapitre 8, donc depuis le verset 6. Déjà du verset 6 au verset 9. Nous avons donc engagé Tite, là il est question de Tite, à achever chez vous cette œuvre de bienfaisance comme il l'avait commencé. De même que vous excellez en toutes choses, en foi, en parole, en connaissance, en zèle à tous égards, et dans votre amour pour nous, faites en sorte d'exceller aussi dans cette œuvre de bienfaisance. Je ne dis pas cela pour donner un ordre, mais pour éprouver par le zèle des autres la sincérité de votre amour. Car si vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, qui pour vous s'est fait pauvre, car vous connaissez, pardon, la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, qui pour vous s'est fait pauvre, de riche qu'il était, afin que par sa pauvreté, vous soyez enrichis. Amen. Et nous lisons encore au verset 22. Nous envoyons avec eux notre frère, dont nous avons souvent éprouvé le zèle, dans beaucoup d'occasions, et qui en montre plus encore cette fois, à cause de sa grande confiance en vous. Éprouver, là encore, vous le voyez, c'est quelque chose qui revient. Éprouver, et ça aussi, c'est une nécessité. Éprouver par la bienfaisance. Par la bienfaisance. Dans bienfaisance, vous avez deux mots, bien et faire. Hein, faire bien, la bienfaisance. Voilà, raconte encore cette histoire d'une jeune, belle et riche princesse qui ne manquait pas de prétendants, mais qui aimait un simple cordonnier. Voilà. Et pour son père, il n'était évidemment pas question de l'avoir épousé à un artisan, alors que tant de princes n'avaient Dieu que pour elle. Voilà, donc le roi était intraitable dans son refus, et il se désolait de voir sa fille s'enfermer dans un amour qu'il pensait impossible. Alors, il lui a posé un ultimatum, il lui a dit, écoute, tu vas te choisir un mari avant Pâques, sinon c'est moi qui te choisis le mari, hein, et puis je te marierai de force. Alors la princesse a proposé à son père d'épouser le prétendant qui lui ferait le plus beau cadeau. Qui lui ferait le plus beau cadeau. Et le roi, heureux de ce que sa fille soit devenue raisonnable, a accepté cette décision et il a fait savoir cela publiquement. Et voilà que les candidats se sont présentés au palais avec des présents les plus somptueux, des magnifiques chevaux empanachés de rubans, des rivières de diamants, des étoffes précieuses, des tableaux de maître, des sculptures anciennes, enfin tout ce qu'on pouvait considérer comme précieux en ce temps-là. Tout ce qu'on peut imaginer de plus luxueux quand on est un noble et qu'on courtise la fille du roi. Et le cordonnier aussi s'est présenté au concours avec une simple paire de souliers, à la taille de la princesse bien sûr, qu'il avait fabriquée. Voilà. Et puis lorsqu'on a demandé à la princesse quel était le cadeau qui lui convenait le plus, qui était le plus beau, elle a répondu, ben écoutez, il n'y a que le cadeau du cordonnier qui a correspondu à ma demande. C'est en effet le seul qui a été fait à mon intention. Hein, c'est-à-dire celui qui ferait le plus beau cadeau. Elle pensait aussi qu'elle le fabriquerait. Hein, donc c'était ça. Donc c'était ça son idée. Hein. Et tous les autres cadeaux ont été achetés. Celui-là a été fait. Voilà. Et le roi a été obligé de reconnaître qu'il y avait du bon sens dans ce que sa fille disait. Sa colère a été compensée par la fierté d'avoir une enfant aussi astucieuse et avec une telle sagesse, certainement pensait-il que son royaume serait bien gouverné. Bon, c'est une histoire. Mais en tout cas, dans le mot bienfaisance, il y a ces mots bien et faire. Et c'est ainsi que nous serons éprouvés. Et là, ça nous ramène directement, bien sûr, à notre texte. Hein, parce que vous trouvez ça dans la fin du verset 7 et dans le verset 8. Alors, l'amour est éprouvé aussi, nous est-il dit, par le zèle des autres. Donc, dans ce cas, eh bien, voilà, c'est un exemple à suivre, hein, évidemment, et de ce point de vue-là, un exemple qui est vraiment utile et bénéfique. L'amour est éprouvé aussi, évidemment, au verset 9, par l'exemple suprême de Christ, qui a montré l'exemple, justement, le modèle parfait de l'amour du zèle, par le don total de ce qu'il avait et de ce qu'il était. Et ce zèle doit être éprouvé, non pas une fois seulement, mais en beaucoup d'occasions, comme nous est cité l'exemple de Tite, c'est pour ça qu'on a relu après le verset 22, donc, et qui à cause de cela est appelé aussi associé de l'apôtre et compagnon d'œuvre. Que notre amour, que notre zèle puisse également ainsi être mis en œuvre. Beaucoup de choses seraient certainement à rajouter sur ce plan-là, mais il nous faut passer au point suivant. Et là, nous sommes dans la première épître de Jean, au chapitre 4, versets 1 à 6. C'est la question d'éprouver les esprits. D'éprouver les esprits. Eh oui, parce qu'il y a cette réalité-là. 1 Jean, chapitre 4. Il ne fallait pas marquer. Le voilà. Donc, ça, c'est aussi extrêmement important et je crois aujourd'hui tout spécialement important. Bien-aimés, n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu. Car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. Reconnaissez à ceci l'Esprit de Dieu. Tout esprit qui confesse Jésus-Christ venu en chair est de Dieu. Et tout esprit qui ne confesse pas Jésus-Christ n'est pas de Dieu, c'est celui de l'Antéchrist dont vous avez appris la venue et qui maintenant est déjà dans le monde. Vous, petits enfants, vous êtes de Dieu et vous les avez vaincus parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Eux, ils sont du monde, c'est pourquoi ils parlent d'après le monde et le monde les écoute. Nous sommes de Dieu. Celui qui connaît Dieu nous écoute, celui qui n'est pas de Dieu ne nous écoute pas. C'est par là que nous connaissons l'esprit de la vérité et l'esprit de l'erreur. Amen. Voilà, donc effectivement, derrière les faux messages, vous avez de mauvais esprits. Hein, c'est une réalité sur laquelle ce texte donc, nous parle. Et si le diable peut se déguiser en ange de lumière, eh bien, vous avez des erreurs et de faux prophètes qui peuvent se dissimuler sous les apparences les plus pieuses. Hein. Donc, il ne faut pas qu'on se laisse prendre par l'apparence. Donc, quels sont les points de référence, les critères de référence dont il est question là ? Déjà, le fait de se déclarer publiquement pour Jésus, ça, c'est la première chose. S'engager pour Jésus-Christ, pour sa personne, pour son œuvre, pour sa parole de vie. Hein. Donc, voilà, déjà cela. Et puis s'engager pour Jésus-Christ venu en chair. Hein, Jésus est venu dans un corps. Il faut quand même se souvenir de cela. C'est parce qu'il est venu dans un corps qu'il a accompli la volonté de Dieu. Dans l'Épître aux Hébreux, c'est clairement indiqué, il y a le Fils qui s'adresse au Père et lui dit « Tu m'as formé un corps, c'est pourquoi je viens au Dieu pour faire ta volonté. » Hein, donc voilà. Et ça nous parle aussi pour nous, parce que C'est bien gentil, la théorie. Bon, il en faut, c'est la réalité. Mais il faut aussi que notre vie, notre piété se manifeste dans des actes physiques. Hein. C'est une conséquence directe de cette proclamation-là et de cette obéissance-là. Et puis, il nous est dit que celui qui ne se déclare pas publiquement pour Jésus, eh bien, c'est l'esprit de l'Antichrist, qui en plus parle d'après le monde. Ah oui, parce que le monde l'écoute, hein. Le monde va lui plaire, pourquoi ? Et ça va plaire au monde, son discours. Ça ne va pas plaire, évidemment quand on annonce l'évangile, et puis qu'on annonce la nécessité de la repentance, hein, quand on annonce la nécessité de changer de vie, de se convertir, quand on annonce la nécessité de la consécration à Dieu, quand on annonce la nécessité de la sanctification, de séparer dans nos vies ce qui est mal et puis toute vanité pour se consacrer à Dieu, ça c'est un message qui ne plaît pas au monde. Donc les antichrists, ben justement, ces esprits mauvais, eh bien, ils ont des paroles qui plaisent au monde, mais qui ne plaisent pas au Seigneur, qui ne plaisent pas à sa parole. Donc, celui qui annonce la parole de Dieu, celui qui l'écoute, eh bien, ce sont ceux-là qui sont de Dieu. Et l'annonce de la parole de Dieu et de rien d'autre. L'attachement profond à la parole de Dieu. Et combien il est important, frères et sœurs, que nous ne cessions jamais de lire la parole de Dieu. Cessions jamais de méditer la parole de Dieu. Hein, il y a une étude qui a été faite qui montre que la moitié des étudiants cessent de lire lorsqu'ils ont leur diplôme en poche. Et pourtant, leur diplôme, bon, apparemment, en moyenne, au bout de 5 ans, il est frappé d'obsolescence, hein, il devient obsolète. Combien on trouve, malheureusement, peu de lecteurs réguliers parmi ce qu'on appelle des professions libérales, hein. C'est assez surprenant, mais c'est comme ça. Et c'est John Wesley qui, quelque part, était conscient de cela aussi au niveau de l'œuvre de Dieu. Il avait l'habitude de dire à ses étudiants, écoutez, si vous n'aimez pas lire, forcez-vous. Si vous ne voulez pas lire, abandonnez le ministère. Abandonnez le service pour Dieu, dit-il. C'est pas la peine. C'est pas la peine de continuer. Alors bien sûr, la première lecture, en priorité, c'est celle de l'Écriture sainte. C'est Harry Ironside, donc, qui était un homme de Dieu... qui est un homme de Dieu tout à fait influent et tout à fait bénéfique, a entendu, lorsqu'il était jeune, lorsqu'il était enfant encore, il a entendu quelqu'un qui lisait chaque année la Bible d'un bout à l'autre. Alors, fortement impressionné, il a décidé de faire pareil. À 14 ans, il avait lu sa Bible 14 fois d'un bout à l'autre, déjà. Hein. Donc, et il est devenu, en continuant à le faire avec ardeur, et puis devenu un des prédicateurs les plus influents de l'histoire. Il a écrit beaucoup de livres, spécialement des commentaires de l'Écriture. Et ses lecteurs étaient frappés à la fois par la profondeur de son enseignement, de la connaissance des Écritures, et aussi par le talent qu'il avait de mettre les choses à la portée de tout le monde, en utilisant un langage simple, un langage courant. Hein. Donc ça, c'était vraiment une valeur. Souvenez-vous de l'apôtre Paul. Il est en prison, hein. Il est justement, nous parlions de la deuxième épître à Timothée, hein, celle qui constitue un peu son testament spirituel. Puis qu'est-ce qu'il dit là ? Il est en prison, alors qu'il sait qu'il va être certainement condamné à mort. Il lui demande d'apporter les livres sur tous les parchemins. Qui est oublié ailleurs. Pourquoi faire ? Ben pour lire. Paul, c'est quelqu'un qui, jusqu'à son dernier jour, a continué à lire la parole de Dieu. Il a continué à se fortifier de cette manière-là. Il a continué à se laisser enseigner par Dieu ainsi. C'est Georges Müller, qui était plus affairé que la plupart des gens. Il avait coutume de dire la chose suivante : si je néglige de me plonger dans la parole de Dieu chaque jour, je considère ma journée comme entièrement gâchée. Et voilà, hein, donc, et on pourrait citer encore d'autres, mais en tout cas, le livre du prophète Osée nous rappelle de la part de Dieu, au chapitre 4, verset 6, « Mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. » Je veux dire, la connaissance intellectuelle et puis la connaissance personnelle du Seigneur. C'est ça qui manque, et c'est vrai. Et c'est pour ça, pour recevoir plus de bénédictions, ben, il faut que nous puissions grandir spirituellement quand même. Hein. Vous savez, si on prend un quart d'heure par jour, pour lire la parole de Dieu, on aura lu sa Bible en un an. Hein, en moyenne, c'est comme ça. Alors, eh bien, si on n'a pas commencé, eh bien, je crois que c'est l'occasion aujourd'hui de le faire. Et puis, si peut-être on s'est laissé un petit peu relâché, eh bien, voici l'occasion de se relancer. Amen. Amen. Et puis, voilà, donc, en résumé, donc, quelques points qui sont nécessaires pour éprouver les esprits. L'engagement public pour Christ, l'obéissance du corps, la sanctification et la mise en évidence de la parole de Dieu pour que ces esprits soient éprouvés, que le résultat puisse être favorable. Enfin, pour conclure, Dieu lui-même nous invite à l'éprouver. Et là, nous allons lire dans le livre de Malachie, donc le dernier livre de l'Ancien Testament, au chapitre 3, ce passage dans lequel il est question de cette mise à l'épreuve et des conditions que Dieu pose pour pouvoir le faire aussi. Malachie, chapitre 3, verset 7. « Depuis le temps de vos pères, vous vous êtes écartés de mes ordonnances, vous ne les avez point observées. Revenez à moi et je reviendrai à vous, dit l'Éternel des armées. Et vous dites, en quoi devons-nous revenir ? Un homme trompe-t-il Dieu, car vous me trompez ? Et vous dites, en quoi t'avons-nous trompé ? Dans les dîmes et les offrandes. Vous êtes frappés par la malédiction et vous trompez la nation tout entière. Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées. Et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux, si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance. Amen. » Mettez-moi de la sorte à l'épreuve. C'est marqué quand même « de la sorte ». Donc ça veut dire qu'on ne peut pas mettre Dieu à l'épreuve n'importe comment. Il y a de bonnes conditions pour le mettre à l'épreuve. Et quelles sont ces conditions qui sont indiquées là ? Ben déjà, la première nécessité, celle de reconnaître son éloignement et son égarement dans leur cas. C'est ce qu'on voit dans le verset 7 au début. La nécessité de revenir au Seigneur, à sa communion, à l'amour pour lui, comme il a dit là aussi. Revenir à une pleine obéissance, toujours dans ce verset 7. Et puis la nécessité de se consacrer avec ses biens. Et c'est de la sorte, est-il marqué, que nous pouvons mettre Dieu à l'épreuve. Vous savez, un paysan, même le paysan le plus pieux, le plus consacré, celui qui aime le plus le Seigneur, même celui qui témoigne de Christ autour de lui partout, mais un paysan, il connaît une loi. Une loi, il sait que cette loi, et c'est pas possible de passer à côté. C'est la loi des semailles et de la moisson. C'est-à-dire qu'il ne va jamais prier Dieu en disant « Oh Dieu, voilà, je ne vais pas semer, puis tu vas me donner une grande moisson. » Non, il ne va jamais faire ça. Parce qu'il sait qu'il y a une loi qui a été établie depuis la Genèse, depuis le début. Tant que la terre subsistera, eh bien les semailles et la moisson ne cesseront pas. C'est une loi. C'est une loi qui est comme ça. C'est de cette manière-là. Donc, ça c'est une première loi. Et puis une deuxième chose aussi que le paysan sait, c'est que même s'il n'a plus beaucoup, imaginons qu'il n'a plus beaucoup de grains en réserve pour faire son pain, mais il y a quand même une quantité de grains là qu'il ne faut pas qu'il touche, c'est la quantité qui va être destinée aux semailles. Donc, même s'il a faim, il va se dire non, mais ça, il ne faut pas que j'y touche, parce que ça, c'est la promesse des moissons futures. Donc, il ne faut pas que je touche à ça. Et si on dit ça, c'est parce que Dieu agit de cette même façon. Il nous invite à agir de cette même façon. Il dit voilà, si vous voulez que j'agisse pour vous, si vous voulez me mettre à l'épreuve, eh bien vous, mettez-vous dans cette position-là. Vous aussi, semez. Semez pour Dieu. Semez pour son œuvre. Faites-le. Bon, il y a la question de la dîme, il y a la question des offrandes dans ce contexte-là que nous voyons là. Et puis même pour ceux qui se posent des questions, pour ceux qui peuvent se dire, ben moi, non, mais moi, je suis comme le paysan. J'ai faim. Je suis dans une situation où financièrement, ben, je ne suis pas à l'aise, etc. Eh bien, sachez qu'il y a aussi des promesses de la part de Dieu pour ceux qui savent s'en emparer par la foi. Et là aussi, si on le fait, ceux qui le font, ils feront l'expérience. Et Dieu dit qu'il ouvrira pour nous, quoi ? Les écluses des cieux. Je ne sais pas si vous avez déjà assisté à une ouverture d'écluse. L'ouverture d'écluse, ben, c'est tout un bouillonnement. C'est un bouillonnement qui est là, c'est une abondance, un jaillissement. Et ça, c'est l'image des bénédictions, et c'est l'image du secours, et c'est l'image du rassasiement que le Seigneur veut nous donner en toutes choses et en tout besoin. Que son nom soit béni. Et c'est comme ça que nous pouvons éprouver Dieu, que nous pouvons mettre Dieu à l'épreuve, et qu'il nous invite même à le faire. Alors en conclusion, nous voici devant le Seigneur, en récapitulant déjà pour nous examiner nous-mêmes. C'est la première chose, sérieusement et profondément. Et ensuite, pour éprouver aussi sincèrement, objectivement, la réalité de notre amour et de notre zèle dans leur profondeur. Et puis, pour éprouver avec soin, suivant la parole de Dieu, les esprits. Les esprits auxquels nous permettrons de nous influencer ou auxquels nous ne permettrons pas. Vous savez, vous ne pouvez pas empêcher que vous serez influencé. Et moi aussi, on ne peut pas l'empêcher. Par contre, on peut choisir qui va nous influencer. Et ce qui va nous influencer, ça on peut le choisir. Hein. Et donc c'est important de le faire, et que Dieu nous aide aussi à bien éprouver les choses pour cela. Et puis nous voici bien sûr aussi devant ce Dieu de grâce, qui veut bénir en nous invitant à le mettre lui-même à l'épreuve. Que son nom soit béni. Amen. Amen. Seigneur, nous te remercions et nous te rendons grâce encore pour ton amour et ta bonté. Te rendons grâce pour ta fidélité, Seigneur. Te rendons grâce parce que tu es celui qui nous donne toutes ces recommandations, Seigneur, de manière à ce que nous puissions nous trouver dans cette bonne position où nous allons pouvoir échapper à ces nombreux pièges qui sont là dans ce monde, qui sont sur ce chemin, Seigneur, aux abords de ce chemin où nous marchons avec toi. Nous te remercions pour le secours que tu veux nous donner, nous te remercions pour le soutien fidèle, nous te remercions pour la grâce avec laquelle tu agis envers nous, Seigneur. Nous te remercions parce que tu es vraiment celui qui veut accomplir tes promesses en notre faveur. Sois glorifié, béni sois-tu, Seigneur, pour toute bonne œuvre que tu opères encore aujourd'hui dans le nom précieux de ton Fils. Amen, Jésus. Amen, alléluia.